Chapitre 6. Une vieille histoire. Toutefois, ce ne fut point la seule conversation féconde en résultat que tint ce jour-là Mrs. Westmacott, de même que l'amiral ne fut pas le seul des habitants du désert qui fut destiné à changer considérablement d'opinion. Deux familles des environs, les Winslow d'Annerley et les Cumberbatch de Gypsy Hill, avaient été invités à une partie de tennis par Mistress Westmacott. La pelouse était égayée par les costumes épatants des jeunes gens et les toilettes claires des jeunes filles. Quant aux parents, assis dans leurs chaises de jardin en osier, les silhouettes blanches, avec leurs bonds, leurs élans de flèche, leurs sauts, le flottement des jupons, l'éclair entrevu des souliers de toile, le choc sonore des raquettes, le sifflement aigu des balles, le cri répété du marqueur, « 15 love, 15 all », tout cela formait pour eux une scène pleine de gaieté et d'animation. La vue de leurs fils et de leurs filles, avec leurs figures échauffées, si bien portantes, si heureuses, leur donnait à eux aussi un chaud reflet, et il eût été difficile de dire lesquels des joueurs ou des assistants prenaient le plus de plaisir à la partie. Mistress Westmacott venait à peine de finir une série quand son regard se porta par hasard sur Clara Walker, qui était assise et seule à l'autre bout de la pelouse. Elle parcourut le champ, franchit le filet d'un bond, ce qui ébahit les visiteurs, et alla s'asseoir près d'elle. Clara, avec sa nature réservée, raffinée, eut un mouvement d'effroi devant les allures tapageuses dans leur franchise, devant les façons étranges de la veuve, et pourtant son instinct féminin lui dit que, sous ses originalités, il y avait bien de la bonté, bien de la noblesse. Elle lui répondit donc par un sourire et un signe de tête accueillant. « Pourquoi ne jouez-vous donc pas maintenant? Je vous en prie, n'allez pas vous mettre à faire la jeune dame langoureuse. Renoncer au sport actif, c'est renoncer à votre jeunesse. » « J'ai joué une série, Mistress Westmacott. » « Alors, c'est bien, ma chère. » Elle s'assit à côté d'elle et lui donna sur le bras une tape avec sa raquette de tennis. « Vous me plaisez, ma chère, et je vais vous appeler Clara. Vous n'êtes pas aussi agressive que je le désirerais, Clara, mais je vous aime quand même beaucoup. L'abnégation, c'est très beau, vous savez, mais nous en avons trop montré de notre côté et nous comptons bien en trouver un peu de l'autre. » Qu'est-ce que vous pensez de mon neveu Charles ? Cette question était posée de façon si brusque, si inattendue, que Clara fit un véritable bond sur sa chaise. Je n'ai guère pensé à votre neveu Charles. Non ? Eh bien, il faudra que vous réfléchissiez mûrement sur son compte, car je tiens à vous parler de lui. À moi ? Mais pourquoi ? La chose m'a paru très délicate. Voyez-vous, Clara, voici comment la chose se présente. Il peut parfaitement arriver que je me trouve dans un milieu d'existence complètement nouveau. Il en résultera pour moi, avec des devoirs nouveaux, l'impossibilité de continuer à tenir en ménage auquel Charles soit associé. Clara ouvrit de grands yeux. Cela signifiait-il qu'elle allait se remarier? Ses propos pouvaient-ils s'interpréter autrement? Par conséquent, il faut que Charles ait son propre intérieur. C'est évident. Et d'autre part, je n'approuve point les ménages de garçons. Et vous ? Vraiment, Mistress Westmacott, c'est une chose à laquelle je n'ai jamais songé. Oh, la maligne petite chatte ! Est-ce qu'il y eut jamais une jeune fille qui n'y ait jamais songé ? Je suis d'avis qu'à 26 ans, un jeune homme doit être marié. Clara se sentit fort embarrassée. Elle venait d'avoir la terrible pensée que cette ambassadrice était venue offrir ses bons offices pour une proposition de mariage. Mais comment la chose était-elle possible? Elle n'avait pas causé plus de 3 ou 4 fois avec le neveu, et elle ne savait sur lui que ce qu'il lui avait dit le soir précédent. Dès lors, la chose était impossible. Et pourtant, où voulait en venir la tante en lui parlant de discuter sur ce qui regardait personnellement celui-ci? « Et vous, dit-elle encore, n'êtes-vous pas d'avis qu'à 26 ans, il est préférable pour un jeune homme d'être marié ?»« Je pense qu'il est assez grand pour pouvoir en décider lui-même. » »« Oh oui, c'est ce qu'il fait. Mais Charles est tout de même un peu timide, un peu lent à s'expliquer lui-même. J'ai pensé à lui frayer la route. Deux femmes peuvent arranger au mieux ses affaires. Les hommes sont quelquefois embarrassés pour se faire comprendre. « J'ai grand-peine à vous suivre, Mistress Westmacott !» s'écria Clara au désespoir. « Il n'a pas de profession, mais il a des goûts distingués. Tous les soirs, il lit du Browning. Et puis, il est d'une vigueur étonnante. Quand il était plus jeune, nous faisions souvent des parties de boxe, mais à présent, je ne puis plus l'obtenir de lui, car il dit qu'il se sent incapable de ménager ses coups. Je lui donnerai 500 livres, ce qui serait suffisant pour commencer. » « Ma chère Mistress Westmacott, s'écria Clara, je vous assure que je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous me parlez. Croyez-vous que votre sœur Ida agréerait mon neveu Charles ?»« Sa sœur Ida ?» Un frisson de vrai soulagement et de plaisir l'émut à cette pensée. Ida et Charles Westmacott, elle n'y avait jamais songé, et pourtant ils s'étaient trouvés ensemble bien des fois. Ils avaient joué au tennis. Ils avaient excursionné avec le tricycle en tandem. Et de nouveau, ce frisson de joie, mais bientôt suivi des doutes soulevés par une sévère conscience. Pourquoi cette joie? Quelle en était la vraie source? Ne serait-ce pas que quelque part, en de lointaines profondeurs, se dissimulait la pensée que si Charles se voyait agréé dans sa cour, c'était car Oldenver serait encore accessible? Combien cette pensée était mesquine, indigne d'une jeune fille, indigne d'une sœur. Elle comprima cette pensée, elle voulut la faire rentrer, mais la maudite petite coquine relevait encore la tête. Clara rougit de honte devant sa propre bassesse et s'adressa de nouveau à son interlocutrice. « Je ne sais vraiment pas. Elle n'est point fiancée ?»« Non, que je sache. » « Vous parlez d'un ton indécis. »« C'est que je ne suis pas certaine, mais il peut demander, elle ne saurait qu'en être flattée. »« C'est vrai, je lui dis que c'est le compliment le plus efficace qu'un homme puisse adresser à une femme. »« Il est un peu timide, mais quand il se sera bien mis en tête de le faire, il marchera. »« Il est très épris d'elle, je vous assure. » Ces petites personnes pleines de vivacité exercent une attraction sur les natures lentes et lourdes. C'est le procédé que la nature emploie pour neutraliser les gens assommants. Mais voilà que tout le monde rentre. Vous me permettez, j'espère, de profiter de l'occasion pour lui dire qu'il n'y a pas, à votre connaissance, d'obstacle réel à ses vues. À ma connaissance, répétait Clara, pendant que la veuve s'éloignait, dans la direction du groupe formé par les joueurs à côté du filet et de ceux qui regagnaient lentement la maison. Elle se leva pour la suivre, mais la tête lui tournait sous l'influence d'idées nouvelles et elle se rassit. Lequel d'Harold ou de Charles vaudrait le mieux pour Ida? Elle y réfléchit avec autant de sollicitude qu'une mère en met à faire des projets pour son fils unique. Harold lui avait semblé, à bien des points de vue, douée de la nature la plus noble et la plus honnête qu'elle eût jamais connue. Si jamais elle aimait un homme, ce serait un homme comme celui-là. Mais elle ne devait point songer à elle-même. Elle avait lieu de croire que ces deux hommes étaient amoureux de sa sœur. Lequel des deux serait préférable pour celle-ci? Mais peut-être la chose était-elle déjà décidée. Elle ne pouvait pas oublier ce fragment de causerie qu'elle avait surpris la nuit précédente, ni le secret que sa sœur avait refusé de lui confier. Si Ida ne voulait rien lui révéler, il n'y avait qu'une personne qui fût en état de parler. Elle leva les yeux et vit Harold Denver debout devant elle. « Vous étiez perdue dans vos pensées, » dit-il en souriant. « J'espère qu'elles étaient agréables. »« Oh, » dit-elle, « j'étais occupée à faire des projets. En général, on estime que c'est du temps perdu, » car les événements ont une façon à eux de prendre la tournure à laquelle on s'attend le moins. Quel projet formiez-vous donc? Des projets d'avenir. Pour qui? Pour le mien et celui d'Ida. Et étais-je compris dans vos projets communs d'avenir? Tous nos amis y étaient compris, j'espère. Ne rentrez pas, dit-il, comme elle allait à pas lents du côté de la maison. Je désirerais vous dire un mot. Promenons-nous de long en large sur la pelouse. Vous avez peut-être froid? Si vous avez froid, je pourrai vous aller chercher un châle.
Oh non, je n'ai pas froid.
J'ai parlé à votre sœur Ida hier soir. Elle remarqua que sa voix tremblait légèrement et, levant les yeux vers sa figure brune, aux traits accentués, elle vit qu'il était fort grave. Elle sentit que la décision était prise et qu'il était venu lui demander la main de sa sœur. « C'est une jeune fille charmante, » dit-il après un silence.
« Elle l'est en effet, » s'écria Clara avec chaleur. « À moins d'avoir vécu avec elle et de l'avoir connue intimement, on ne saurait à quel point elle est charmante et bonne. Elle est comme un rayon de soleil dans la maison. »
Personne ne pourrait être aussi complètement heureux qu'elle le paraît, à moins d'avoir sa bonté. Le don suprême que fait le ciel, selon moi, c'est celui d'une intelligence si pure, d'un esprit si élevé, qu'il ne peut même concevoir ce qui est impur et mauvais dans le monde qui nous entoure, car sitôt que nous sommes en état de voir cela, comment pourrions-nous être heureux?
Elle a aussi ses profondeurs. C'est un aspect qu'elle ne laisse pas voir au dehors, et il n'est pas naturel qu'elle le montre, car elle est bien jeune. Mais elle réfléchit. Elle a ses aspirations personnelles.
Vous ne sauriez l'admirer plus que je ne le fais. À parler franchement, Miss Walker, je ne demande qu'à entrer en relation plus étroite avec elle et à sentir qu'un lien durable existe entre nous. Enfin, la chose était dite. Elle éprouva au cœur un instant d'engourdissement, mais un flot d'amour fraternel emporta tout devant lui. Chassant bien loin cette idée sombre qui tentait encore de redresser sa tête maudite, elle se tourna vers Harold. Ses yeux étincelaient. Elle avait sur les lèvres des expressions d'enchantement. « Je souhaiterais de rester auprès de vous deux et d'avoir votre double affection, » dit-il en lui prenant la main. « Je souhaiterais d'avoir Ida pour sœur et vous pour épouse. » Elle ne dit rien. Elle ne put que rester à le regarder, les lèvres entr'ouvertes, de ses grands yeux noirs pleins d'interrogations. La pelouse s'était effacée. Les jardins en pente douce, les villas en briques, le ciel qui s'obscurcissait, avec une pâle lune qui se montrait à la moitié de sa surface derrière les pots de cheminée, tout avait disparu. Elle ne voyait plus qu'une figure sombre, presque suppliante, n'entendit plus qu'une voix, une voix lointaine, et qui n'était point la sienne, celle d'un homme disant à une femme combien il l'aimait. « Il était malheureux, » disait cette voix. Son existence était vide. Il n'y avait qu'une chose qui pût le sauver. Il était arrivé au carrefour des routes, dont l'une allait vers le bonheur, l'honneur, tout ce qui était grand et noble, l'autre vers la routine mortelle pour l'âme, la vie solitaire, la basse poursuite de l'argent, les perspectives sordides, égoïstes. Il lui suffisait, pour entrer dans la bonne voie, que la femme aimée lui tendît la main. Il l'aimait pour sa tendresse, pour sa nature de femme, pour son énergie. Elle lui était nécessaire. Ne viendrait-elle point à lui? Et alors, pendant qu'elle prêtait l'oreille, elle reconnut tout à coup que cet homme, c'était Harold Denver, que la femme c'était elle-même et que les œuvres de Dieu étaient toutes bien belles, cette pelouse verte sous ses pieds, ce bruissement de feuillage, ces longues bandes orangées dans le ciel d'Occident. Elle parla, sachant à peine quels étaient les mots entrecoupés qu'elle prononçait, mais elle vit la figure d'Harold s'illuminer de joie, et ce fut les mains enlacées qu'ils se promenèrent au crépuscule. Ils ne parlèrent plus, s'en tinrent à marcher, à se sentir l'un près de l'autre. Tout avait pris de la fraîcheur autour d'eux, tout leur était à la fois familier et nouveau, tout reflétait la beauté de leur bonheur qu'ils venaient de découvrir. « Ne le saviez-vous pas déjà ? » demanda-t-il.
« Je n'osais y songer.
Quel masque de glace il m'a fallu porter ! Comment se fait-il qu'un homme ait pu sentir ce que j'ai senti sans se trahir ? Votre sœur, du moins, le savait. »«
Ida ? » ?»«
C'était hier soir. Elle commença par votre éloge. » Je lui dis mes sentiments et en un instant, toute la vérité m'échappa.
Mais que pouviez-vous donc trouver en moi? Oh, fasse le ciel que vous ne vous en repentiez pas! Ce noble cœur, au milieu même de sa joie, se tourmentait à l'idée de son peu de valeur. M'en repentir quand je sens que je suis un homme sauvé? Vous ne savez pas à quel point est dégradante cette existence de la cité, combien elle nous abaisse, et cela en nous prenant tout entier. Vous n'entendez rien que le continuel tintement de l'argent. Il vous est impossible de penser à autre chose. Au fond du cœur, j'ai horreur de cela, et pourtant, comment arriver à en sortir sans causer du chagrin à mon bon vieux père? Il n'y avait qu'un moyen à employer pour me mettre à l'épreuve de cette souillure, c'était de subir à mon foyer une influence si pure, si élevée, que je fusse capable de résister à tout ce qui m'entraîne à déchoir. J'ai déjà éprouvé cette influence. Quand je cause avec vous, je sais, je sens que je vaux mieux. Il faut que vous fassiez avec moi le voyage de la vie. Autrement, je serai contraint de l'accomplir tout seul. Oh, Harold, que je suis heureuse !» Ils se promenèrent encore quelque temps, pendant que les ombres s'épaississaient autour d'eux et que les étoiles venaient une à une les épier des hauteurs du ciel d'un bleu noir. À la fin, un vent glacial de nuit vint souffler de l'est et les ramener aux réalités de la vie. « Il vous faut rentrer, vous prendrez froid. » « Mon père doit se demander où je suis. Faut-il que je lui dise quelque chose ?»« Si vous voulez, ma chérie, ou bien je m'en chargerai demain matin. Ce soir, il faut que j'en parle à ma mère. Je sais qu'elle sera enchantée. »« Je l'espère. » »« Permettez-moi de vous guider dans l'allée du jardin. Il fait bien sombre. Votre lampe n'est pas encore allumée. Voici la fenêtre. À demain, ma chérie. » « À demain, Harold !»« Ma bien-aimée !» Il s'arrêta et leurs lèvres se touchèrent pour la première fois. Puis, pendant qu'elle ouvrait la porte-fenêtre, elle entendit son pas rapide et assuré s'éloigner dans l'allée sablée. Lorsqu'elle entra dans la pièce, une lampe était allumée et Ida s'y trouvait, voltigeant devant elle comme une malicieuse petite fée. « Eh bien, avez-vous quelque chose à me dire ?» demanda-t-elle en prenant l'air solennel. Puis, brusquement, elle jeta ses bras autour du cou de sa sœur. « Oh, ma bonne vieille Clara, ma chérie, comme je suis contente, comme je suis contente !»